De retour après la pause, nous allons. On parlait d'Alzheimer il y a quelques instants avec Philippe Ducharme. Comment reconnaître les manifestations du vieillissement et des troubles neurocognitifs chez des personnes qui ont une déficience intellectuelle pose un problème particulier d'un point de vue clinique, mais aussi du point de vue de l'entourage de la personne qui a une déficience intellectuelle. Et une déficience intellectuelle, ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas des troubles neurocognitifs qui vont s'ajouter avec l'âge dans notre vécu. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Mme Audrey Tardif. Bonjour, Mme Tardif.
Oui, bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va bien, merci.
Ben, ça va très bien, je vous remercie. Vous avez participé avec d'autres à une étude qui a eu lieu, surtout dans la région de Trois-Rivières, je crois, au cours des dernières années, pour essayer de déterminer un protocole de reconnaissance des manifestations des troubles neurocognitifs chez les personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Vous-même, je pense, vous êtes ergothérapeute.
Oui, absolument, je suis ergothérapeute.
Et comment ça s'est bâti d'abord, cette recherche? Et quels ont été les résultats?
Oui, bien, en fait, comme clinicienne, je me suis impliquée pour voir justement sur le terrain cliniquement comment on peut repérer les troubles neurocognitifs qui s'installent auprès de la clientèle qui a une déficience intellectuelle, parce que le défi est de reconnaître les signes précurseurs qui sont beaucoup plus subtils que dans la population en général. Hein. On commencera pas à oublier nos clés d'auto ou à avoir des aliments périmés dans le frigo. Il va falloir porter une attention à des changements plus subtils. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, mon implication était plus de relever justement les principaux signes qu'on peut observer dans le quotidien des usagers.
Et parce que c'est sûr que il faut pour l'entourage, les signes précurseurs risquent de passer inaperçus. Et là, ça va débouler parce que la situation de la personne ne sera pas prise en charge.
Ben exactement, en identifiant les signes précurseurs à leur tout début. Puis tu sais, en fait, ce qu'on dit, le mot d'ordre là, avec nos usagers qui ont une déficience intellectuelle, c'est de porter une attention à tout changement. Donc au niveau de la personnalité, au niveau des comportements, des tout petits changements quant à l'autonomie fonctionnelle aussi vont être des bons signes qu'il est en train de se passer quelque chose pour cet usager-là. Donc en adressant rapidement ces changements-là, par exemple avec une consultation médicale rapide pour revoir l'ajustement de la médication, adresser les causes physiques, bien, parfois, on peut même remédier à certaines causes réversibles. Puis sinon, bien, c'est que ça nous permet rapidement d'aller soutenir les proches qui peuvent être plus dépourvus par rapport à ces changements-là. Donc, éviter l'épuisement. Puis l'objectif ultime est de maintenir la personne le plus longtemps possible
dans son milieu.
Ouais.
Oui, je comprends. Tout à fait. Puis c'est important parce que le changement de milieu va là aussi avoir un effet négatif. Et peut accélérer, les troubles neurocognitifs. Il y a un risque, en fait, quand on parle de voir les signes, c'est peut-être quand on commence à avoir une perte des acquis qui, là, ça nous peut-être peut nous mettre la puce à l'oreille.
Oui, exactement. Toute perte, tout changement, aussi minime soit-il. Puis, ce qui est important de retenir aussi, c'est que on va observer ces changements-là auprès de notre clientèle beaucoup plus tôt qu'on le ferait exact. Avec la population en général. On parle de 65 ans. Là, quand on parle du vieillissement dans la population générale, ben il faut porter une attention aux changements plus vers 55 ans quand on parle des personnes vieillissantes qui ont une déficience intellectuelle. Puis ça peut aller même jusqu'à 45 ans pour une personne qui présente un syndrome de Down. Donc oui, porter une plus grande attention dès 45 ans avec notre clientèle pour tout changement qu'on pourrait observer dans leur quotidien.
Parce qu'il faut comprendre que le bagage génétique qui peut avoir engendré la déficience intellectuelle va peut-être aussi avoir des effets sur le métabolisme, sur le reste du corps. Et à ce moment-là, les personnes, entre guillemets, vieillissent rapidement ou leur corps se détériore plus vite que la moyenne de la population. Alors, le vieillissement qui va donner, qui va provoquer des troubles neurocognitifs risque effectivement d'apparaître assez tôt. Les gens qui vivent avec une trisomie ont un corps qui malheureusement se détériore rapidement. Alors, ils peuvent avoir des troubles neurocognitifs Alors qu'ils sont, on a l'impression qu'ils sont encore jeunes, là, mais c'est pas
Ben
le cas.
oui, absolument. Puis c'est vrai pour le trouble neurocognitif, puis c'est vrai aussi pour tout autre trouble de la santé qui peut être lié au vieillissement. Là, tous les facteurs de risque que vous énumérez de la clientèle qui a une déficience intellectuelle va expliquer en partie le fait là qu'il y a aussi beaucoup plus de problèmes de santé associés au vieillissement pour la clientèle en déficience intellectuelle. Donc, plus de risques là de basculer vers un vieillissement pathologique, disons.
Dans le milieu de vie, on commence à constater une détérioration, les travaux auxquels vous avez participé pour avoir une application clinique, comment est-ce qu'on peut vérifier que d'un point de vue clinique, que cette détérioration-là a bel et bien lieu? Parce que les tests qu'on utilise couramment peuvent ne pas être pratiques, là.
Bien, absolument. Les outils standards qu'on utilise dans la population générale, on peut pas les utiliser avec la clientèle. Puis c'est pour ça que le projet avait pour objectif dans nos services là, pour la Mauricie Centre du Québec, de mettre rapidement une équipe interdisciplinaire en place. Donc, dès qu'un intervenant, un proche remarque certains changements au quotidien, bien, on souhaite que rapidement une équipe se mobilise. Là, on parle, nous, d'ergothérapeutes, psychologues, orthophonistes parfois, pour venir soutenir l'intervenant pivot qui remarque les changements pour qu'on puisse le soutenir, entre autres, pour une référence rapide, pour une consultation médicale, puis ensuite, bien, pour la mise en place d'interventions rapides aussi dans son milieu de vie.
Mais est-ce qu'il y a des tests qui sont faits ou c'est une observation? Comment vous y parvenez? Est-ce qu'on peut aussi percevoir que la personne peut-être peut vivre de l'angoisse face à une détérioration de sa situation? Parce que on voit ça souvent chez les personnes âgées qui ont des troubles cognitifs, là, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, là.
Ben oui, absolument. On a un outil qu'on utilise. Là, je vais utiliser l'abréviation, ça va être plus simple, mais c'est le DSQIID.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
En français, là, puis là, vous me jouez un tour, là, je l'ai pas sous les yeux, mais c'est un outil de repérage de la démence pour les usagers qui ont une déficience intellectuelle. Mais l'abréviation est pour le titre anglais. Donc, c'est pour ça qu'on parle du DSQIID. Puis, dans le fond, ça va venir soutenir l'intervenant, justement, sur quel changement au quotidien de la personne porter attention. Donc, on a comme 3 à 4 pages de comportement observable chez la personne qui pourrait être un indice, là, justement, qu'il y a un trouble neurocognitif qui s'installe. Puis après ça, ben là, la deuxième étape va être plutôt les investigations médicales, justement, pour avoir un bilan de santé complet pour voir, ben, c'est-tu une cause physique, des ajustements de la médication qui peut expliquer ces changements-là. Donc, parfois, c'est le cas. Puis là, quand ces causes-là sont écartées, bien, puis qu'il est plus question d'un trouble neurocognitif, bien, c'est là qu'on va aller, par exemple, comme ergothérapeute, évaluer, documenter le fonctionnement quotidien de la personne pour, au fil des mois, documenter là, les changements qu'on peut observer.
Comment on peut simplifier sa vie ou sa routine pour que la personne puisse demeurer fonctionnelle dans son milieu de vie plutôt que d'attendre que tout dérape, là, puis qu'on soit poussé vers une institutionnalisation on va dire que le dernier recours, là, c'est pas ce qu'on souhaite.
Ben exactement, demeurer le plus longtemps dans son milieu de vie, puis d'avoir ben comme pour la population générale, un vieillissement actif, donc éviter de dès le premier changement de tout faire à la place de l'usager. On va essayer de soutenir le proche pour encourager sa participation le plus possible, maintenir son autonomie le plus possible, puis ça nous mène nécessairement vers le maintien dans le milieu de vie aussi, parce que ça va être beaucoup moins exigeant pour les proches de l'usager.
Parce que là, vous touchez un bon point, parce que souvent, quand ce diagnostic-là est posé, qu'il y a un trouble neurocognitif a été identifié, l'entourage va avoir comme une réaction de tout d'un coup tout faire ou de complètement infantiliser la personne. Et ne plus lui faire confiance du tout. Puis là, ça fait juste empirer les choses.
Bien, exactement. Ça devient lourd pour les proches. Ça peut devenir frustrant pour la personne qui va finalement présenter plus de comportements problématiques parce qu'elle perd d'un coup toute son autonomie. Donc oui, en valorisant le plus longtemps possible sa participation, en identifiant quelles sont ses forces, ses capacités qui demeurent, même si un trouble neurocognitif s'installe, bien, ça va être valorisant pour la personne puis ça va être très aidant là, pour les proches aussi.
Cette recherche-là et cette application-là dont vous nous parlez en ce moment, c'est en Mauricie, centre du Québec. Est-ce qu'il y a est-ce que ça fait tache d'huile? Est-ce que d'autres centres de services ailleurs au Québec ont adopté cette démarche-là ou est-ce que vous êtes encore comme un village gaulois?
Ben, C'est une bonne question. Ça fait pas des années, hein, le projet. Là,
c'est
ça
tout
fait
neuf.
Quelques années, mais oui. C'est assez neuf. Déjà, le défi, là, le projet pilote, disons, on l'a réalisé surtout au centre du Québec. Là, donc, on parle de Victoriaville et des environs. Déjà, juste dans notre organisation, à nous de généraliser à la Mauricie, ça reste un défi d'arrimage. Donc, on l'espère là, que la prochaine étape, effectivement, ce sera de pouvoir généraliser dans d'autres milieux pour que la clientèle puisse bénéficier de ce projet-là.
Parce que vous avez vu sur le terrain des améliorations, vous avez été capable d'intervenir plus vite, alors ça donne des résultats.
Oui, absolument. On parle de projet pilote, donc on n'est pas avec un grand nombre d'usagers pour l'expérimentation, mais malgré la petite taille, disons, de l'échantillon, on a eu des impacts significatifs autant sur le fonctionnement quotidien de la personne que pour recevoir des diagnostics plus rapidement. Puis les rétroactions des familles aussi étaient très positives dans le soutien qu'on pouvait leur apporter dans le cadre de la démarche.
Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Tardif. Je pense que ça va aider tout le monde dans les milieux de vie, dans les familles, de mieux comprendre et de mieux, je dirais, observer et déterminer les premières manifestations de vieillissement puis de troubles neurocognitifs chez des personnes ayant une déficience intellectuelle et ça va en fait améliorer la vie de tout le monde. Merci beaucoup.
Bien, merci à vous. Au revoir.